Nous pouvons nous asseoir, frères et sœurs, et ensemble nous ouvrons la Sainte Bible dans le livre de Jonas. Alors je vous laisse quelques secondes pour que vous trouviez Jonas. Parce que c'est un tout petit prophète et vous allez le trouver dans la cale du bateau, si vous connaissez l'histoire. Alors Jonas, Ancien Testament, après les grands prophètes et peu de pages avant le Nouveau Testament. Jonas, l'homme qui dit non, l'homme qui dit oui. On va lire le chapitre premier, quelques versets. Pendant que vous cherchez, Jonas représente Jésus. Dans la détresse, dans la mort, la résurrection, l'annonce de la bonne nouvelle. Jonas représente chacun de nous avec nos égarements et nos retours, avec nos oui et nos non. Jonas représente le peuple d'Israël qui, dans les nations, connaît de grandes épreuves et revient à sa terre promise. Aujourd'hui, c'est le cas. Vous avez trouvé Jonas. Eh bien, chapitre 1er, verset 1er. On va méditer sur ce petit livre qui est quand même une perle de l'Ancien Testament, reprise par Jésus. C'est une histoire magnifique qui nous apprend 10 000 choses. On va s'y retrouver. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, c'est Jaffa aujourd'hui, Tel Aviv, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre: « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur, devinez, Jonas. Il est poursuivi. On arrête la lecture pour aujourd'hui ici. Amen. Mets ta parole en nous, Seigneur. Attire-nous par ces cordages d'amour, de bienveillance, d'exemple. Merci pour l'exemple de Jonas, pour l'exemple des apôtres. Amen. Jonas, lève-toi, un vrai serviteur de Dieu aurait dit tout de suite: « Oui, me voici, lève-toi, me voici, comme Abraham. » va à Ninive. Aujourd'hui, à Ninive, c'est la guerre, c'est Mossoul. On tue des enfants, on tue des hommes, des femmes. C'est la guerre avec Daesh. Ninive, cette ville importante dans l'histoire biblique. Peut-être 500 000 habitants à l'époque. Quelle aventure pour un jeune prophète. Quelle aventure de partir dans cette grande ville. Il faut que nous, faut que nos jeunes et les moins jeunes aient une vision pour servir Dieu. Il ne faut pas que nous restions dans nos chaussons, mais il faut que nous allions servir Dieu parmi les hommes. Extraordinaire aventure, 120 000 hommes dans cette ville, sans compter les enfants. Il faut que l'Évangile ne soit pas dévalué, abaissé, qui mène nulle part, qui ne nous pousse pas à mieux faire, aimer, servir. Il ne faut pas que l'Évangile fasse de nous des gens recroquevillés, peureux, qui pensent au jeu, à l'argent, plus qu'à Dieu. Lève-toi. On doit se lever dans la vie. Pour un travail, il faut prendre ses responsabilités. On doit se lever pour se marier aussi, peut-être. Il ne faut pas se tromper. Hein. On doit se lever pour sa foi personnelle. Pas se tromper dans le mariage. Il ne faut pas se tromper dans le travail et dans sa foi personnelle. Nous sommes appelés. Appelés parce que le Seigneur vient bientôt. Et il faut préparer nos cœurs et préparer les autres à côté de nous. Va à Ninive. Oh, Ninive! C'est le bout du monde, Ninive. 1200 kilomètres. C'est étrange. Abraham est venu de cette région. Et Seigneur, tu me renvoies dans cette région de violence, de sexe, de bêtises. On vient de là et tu me renvoies là. Dieu m'a trouvé dans le monde et il m'a renvoyé dans le monde pour annoncer Jésus-Christ dans les maisons, partout. On n'est pas appelé pour se mettre dans nos maisons et fermer les volets. Jonas, en cette ville immense, je t'envoie. Et Jonas refuse. Il ne dit pas non, il dit rien. Il s'en va. Pourquoi ce prophète de Dieu refuse-t-il? Peut-être la mission est trop grande pour lui. C'est un homme de la campagne, de la Galilée, de la patrie de Jésus, de Marie, des gens simples. C'est un homme tout simple. Comment peut-il aller affronter le plus grand empire du monde de l'époque? Une ville de méchanceté, de violence, où ça s'est empilé depuis des années, et quand on devient violent, 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 ça monte jusqu'aux oreilles du Seigneur là-haut. Quand on fait le mal, ça s'empile jusqu'aux oreilles du Seigneur. Ninive, c'est la chambre de Satan. Ninive, c'est la capitale d'un empire du mal. Aujourd'hui, il y a un empire du mal sur la terre. Mais Seigneur, quel est le message urgent pour Ninive, pour que tu me réveilles à 5 heures du matin en me disant de partir? À Ninive, il faut tirer la sonnette d'alarme. Il y a un message urgent. Parce que quand on fait le mal, on blesse Dieu. Et un jour, Dieu nous arrête. Quand on fait le mal, on transperce le cœur de Dieu. Alors, Jonas, je ne veux pas détruire Ninive. Il faut que tu lui parles. Dieu ne veut pas détruire personne sur terre, mais il faut que tu leur parles. Crie contre Ninive. C'est plus facile de crier pour. Allez les bleus. Ça, c'est facile. Mais de crier contre quelque chose. De dire à Ninive, vous ne comprenez plus la vie, vous ne comprenez plus la mort, vous avez perdu conscience de la beauté de la sexualité. Vous faites le mal. Vous êtes esclave de vos machines, de vos pensées. Oula. Mais est-ce que nous, déjà, avec Jonas, est-ce qu'on prend au sérieux tout ça? Est-ce qu'on s'habitue? Est-ce qu'on s'endort devant le péché qui commence à faire mousser un peu l'humanité? Il faut que nous prenions au sérieux les choses de la vie. Jonas, va Ninive, crie contre elle. Pas seulement dire « Dieu va vous punir ». Vous savez, si Dieu dit à Ninive « Attention, vous allez périr », ça veut dire, si vous m'écoutez, vous n'allez pas périr. Parce que si Dieu veut détruire Ninive, il n'a besoin de personne. Mais quand Dieu nous avertit, c'est qu'il ne veut pas nous détruire. Voilà, il y a un évangile dans l'histoire de Jonas. Il faut dénoncer le péché, mais avec des paroles aux dimensions de Jésus. Dieu est amour. Si vous vous repentez, Dieu vous fera grâce. Si vous revenez, il reviendra aussi à vous. Mais c'est difficile. Difficile de dire aux gens d'aujourd'hui que leur façon de vivre avec leur télé, leur portable, leur sexe, leur argent, ça ne va pas. Ils ne sont pas dans la route droite. C'est difficile aujourd'hui. Martin Luther King, il y a une quarantaine d'années, a dit aux États-Unis, dans l'Amérique de cette époque raciste, « Vous devez aimer vos frères noirs. Et vous, les noirs, vous devez aimer vos frères blancs. » C'est difficile. Il a été tué à Memphis d'une balle. Martin Luther King, pasteur évangélique des États-Unis. C'est difficile, mais Dieu veut arrêter la catastrophe sur Ninive. Alors Jonas, que vas-tu faire? Il ne dit pas vraiment non. Il se lève, alléluia, et il s'en va. Il part à l'opposé. Il part loin de Dieu, c'est ça, loin de la face de Dieu. Il ne part pas au bord de la plage de Tel Aviv, il part loin de la présence de Dieu, sans explication. Parce que peut-être qu'en Israël, il a prêché, et il a prêché, il n'y a pas eu de résultat. Les enfants d'Israël n'arrêtaient pas de faire le mal. Alors qu'est-ce que je vais faire à Ninive? Si je n'y arrive pas dans mon église, qu'est-ce que je vais faire à Ninive? Si je n'y arrive pas avec des enfants, comment je vais aller voir les tortionnaires de la terre? Puis peut-être que Jonas, il se dit, je connais Dieu, il va leur faire grâce un jour ou l'autre. S'ils font quelque chose, Dieu va leur pardonner. Je connais bien le Seigneur, je prends au sérieux le Seigneur. Il va leur pardonner, et moi j'aurai l'air de quoi? J'aurai annoncé la fin du monde, et puis il n'y aura pas de fin du monde. J'aurai l'air d'un faux prophète. Et Dieu, il va être la risée. Dieu promet, Dieu dit, et il ne fait pas. Non, je ne peux pas supporter ça. Et puis les enfants d'Israël, ils vont dire, quoi? Les païens se convertissent, et nous on va mal. Ils vont être jaloux. Mes amis, Jonas ne veut pas faire le bonheur de ses ennemis. Il ne veut pas annoncer l'évangile à ses méchants voisins, parce que ses voisins pourraient se convertir et être heureux. Il ne veut pas le bonheur des ennemis d'Israël. Il veut prêcher aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ça, Jonas. Alors il va partir. C'est pas qu'il fuit Dieu, il fuit sa mission. Il fuit sa responsabilité. Il veut rendre son tablier. Je ne veux plus être ton prophète. Ne me demande pas d'aller chez ces gens cruels. Il va à l'opposé. Il met de la distance entre lui et Dieu. Il traverse la mer, il traverse le désert. Il va à Tarsis. Jonas, partout où tu es, Dieu te retrouvera. La terre est ronde et on se rend compte toujours. Où fuirais-je loin de ton esprit? Si je vais aux cieux, tu y es. Si je descends dans la mort, t'y voilà. Si je vais à l'extrémité de la mer, tu es encore là. Tarsis, vous connaissez Tarsis? Oh, je vous conseille d'y aller. L'Espagne, oh, le pays du soleil, le pays des touristes, où les maisons ne sont pas trop chères. C'est les premières vacances de la Bible. C'est le premier touriste de la Bible. C'est le premier vacancier qui va aller en grandes vacances. Peut-être pour rattraper la situation, on est très fort avec Dieu. On dit, mais Seigneur, là-bas, je serai quand même ton missionnaire. J'évangéliserai sur les plages en buvant un Coca-Cola. Jonas, tu fuis comme beaucoup de gens. Vous savez que dans notre époque, on fuit beaucoup, on marche beaucoup, à ski, à cheval, en bateau, en avion. Il faut qu'on bouge. Même dans nos rêves, parfois, on se voit dans des couloirs et on ouvre des portes, puis encore des portes, puis il faut qu'on bouge, il faut qu'on avance. On est là, la mentalité du monde a déteint sur nous, il faut qu'on court. Même le week-end, je n'aime pas dire le mot week-end, le dimanche, on court encore, on fuit, on va à la mer, on oublie Dieu parfois. Vous savez que le dimanche, le jour du Seigneur, c'est un jour de création dans l'Ancien Testament, le sabbat. Et vous savez que dans le Nouveau Testament, c'est un jour de résurrection. Le dimanche, Dieu nous recrée. Le dimanche, Dieu nous ressuscite. Le dimanche, Dieu travaille avec nous, dans nos âmes, nos enfants, nos corps, nos pensées. Jonas, qu'est-ce que tu fais sur le bateau? T'es pas à ta place, tu bois un jus d'orange. T'es heureux. Les jeunes dames viennent te servir de la boisson gazeuse. Jonas dit, mais pasteur, j'ai payé le prix. J'ai payé le transport, je ne dois rien à personne. J'ai payé, je veux être indépendant. Vous connaissez le prix de la désobéissance. Désobéir, ça coûte. Ça coûte notre argent, des jours, de la pureté, des nuits. Ça coûte dans nos corps, ça coûte dans nos âmes. On peut même perdre son âme. Désobéir, ça coûte cher. Obéir aussi, ça coûte cher. Quand je désobéis, je paye au diable quelque chose. Je lui donne quelque chose. Je lui fais une offrande. Mais obéir aussi, ça coûte. Ça coûte un engagement. Ça coûte du sérieux, des renoncements. Non, merci, je n'en ai pas besoin. Non, je vous en prie, je ne prends pas ça. Ça coûte de se différencier des autres. Mais suivre Jésus peut nous mener très très loin. Alléluia. Et suivre le diable aussi peut nous mener très très loin. Et je ne dis pas alléluia. D'un côté comme d'un autre, on va très loin. Oh Jonas, tu bronzes, tu es beau sur la Méditerranée. Tarsis, c'est la facilité, Tarsis, c'est l'inconnu, c'est l'oubli, on tourne la page. Oui, mais Jonas, t'es tout seul à bord, comme chrétien. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi sur le bateau. Il n'y a que toi pour fuir. Et puis, tu sais, Jonas, quand on s'embarque, on ne peut plus faire marche arrière. Quand le bateau est parti, même si tu dis, oh, au milieu de la Méditerranée, « Oh, je veux revenir en arrière », tu ne peux plus. Tu es parti, Jonas. Il n'y a plus de marche arrière. Tu ne peux plus sortir du bateau. Dans notre vie, nous avons des engagements qui sont sans retour. nous pouvons nous lier avec le mal, avec des gens malfaisants, nous tromper et nous sommes liés. On ne peut plus faire marche arrière. On ne peut plus obéir à Dieu pour aller à Ninive. Nous pouvons avoir tellement d'occupations. Le bateau, pour moi, c'est ça. On est tellement occupé, tellement content, tellement heureux qu'on n'a plus de temps pour Dieu. On ne peut plus. Jonas ne peut plus faire marche arrière. Vous comprenez? Il y a peut-être parmi nous des frères et des sœurs qui sont embarqués dans je ne sais pas quoi et qui ne peuvent plus faire marche arrière. Nous sommes de la famille de Jonas. On peut faire comme lui. C'est pourquoi, si vous payez le prix du transport, Jonas aurait pu dire « Je ne dois rien à l'État, je ne dois rien à la compagnie maritime, je ne dois rien au capitaine, je suis en règle. Pauvre Jonas, tu es en règle, tu payes bien tes impôts, ton voyage, ton bateau, mais es-tu en règle avec Dieu ?» Parfois, je visite les gens, je vais dans les maisons, je dis « Mais monsieur, nous sommes en règle, nous payons nos impôts. Rendez à César ce qui est à César. Amen. Que rendez-vous à Dieu ?» Embarquement immédiat. Tous les passagers sont priés de regagner le bateau. Il va partir, Jonas. J'ai envie de pleurer pour lui. Embarquement immédiat. Le soleil est là, il y a un vent léger, la mer est calme. Oh, c'est drôle, ce matin, j'avais prié le Seigneur et je lui ai dit, si tu veux que je parte à Tarsis, loin de Dieu, loin de ma mission, loin des difficultés, loin de tout, eh bien, donne-moi, Seigneur, comme signe du beau temps. Regardez, il y a du beau temps. Donne-moi un petit vent, pas trop fort, pas trop calme, bien, c'est bien. Donne-moi, Seigneur, d'avoir des camarades de cabine qui soient agréables. Tout est là. Tous les signes sont là. Ce n'est pas suffisant. Je ne crois pas dans certains de nos signes. Si je vous dis aujourd'hui, j'ai demandé du soleil, donc je peux faire ce que je veux. Mes amis, non. Ce ne sont pas des signes, ça. Enfin, Jonas, il est rassuré par tout ça et il se croit maître de son destin. Je me suis parfois posé une question devant certains anciens chrétiens qui étaient dans le bateau de Jonas. Et je me suis dit, ont-ils oublié Dieu ? J'ai posé la question un jour à quelqu'un. J'ai eu le courage de dire, monsieur, vous avez quitté le Seigneur, vous avez quitté l'Église, avez-vous oublié Dieu ? C'est pas possible de l'oublier, n'est-ce pas ? Il m'a dit, oui. J'avais oublié Dieu. Oh, j'étais impressionné. Est-ce facile de vivre sans Dieu? Regardez Jonas. Il va même dormir dans la tempête. Le bateau va se secouer. Il va dormir comme s'il avait rayé de la carte, rayé de sa vie, Dieu, Ninive, la prière, la parole de Dieu, Israël. Que Dieu nous garde d'un mauvais départ. On a des départs tous les jours dans la vie. Que Dieu nous garde. Jonas a refusé de porter sa croix. C'est dur d'aller à Ninive. Mais il aura d'autres croix à porter. Il ne sera pas quitte, parce que Dieu l'aime. Et Dieu va le poursuivre. Pour ne pas qu'il s'endorme sur les belles plages de sable de l'Espagne. Mes amis, quelle différence entre Jonas à Jaffa, Jaffa, c'est pareil, on a les oranges de Jaffa. Quelle différence à Jaffa entre Jonas qui dit zut, adieu, et qui s'en va pour ne pas accomplir sa mission, et dans la même ville, Pierre, pour la première fois, qui va vers les païens et qui leur parle et qui les amène à la conversion, à la repentance, au baptême du Saint-Esprit. Quelle différence ! Jonas le fuyard et Pierre l'apôtre courageux qui va prêcher aux païens. Eh bien, mes amis, frères et sœurs, je voudrais ressembler aujourd'hui à qui ? À Jonas, mais nous verrons ça la semaine prochaine. À Jonas qui va quand même aller vers Ninive. Alléluia ! Un jour ou l'autre, Dieu nous rappelle, Dieu nous rattrape, Dieu nous parle à nouveau et nous dit maintenant, va vers le champ que je t'ai réservé. Reste pas dans tes pensées étroites, pas de salut pour les inconvertis, pas de salut pour les païens, pas de salut pour les Arabes, pas de salut pour les Chinois, pas de salut pour les Américains. Enfin, je dis ça comme ça. Dieu a tant aimé le monde. Le Seigneur a dit à Abraham, je bénirai toutes les familles de la terre en ton nom. Je bénirai toutes les familles, même les gens de Ninive. Amen, dit le Seigneur. Eh bien, nous allons prier que personne ne soit exclu de nos cœurs. J'ai appris par mon expérience pastorale, mais aussi par un ministère un peu souterrain que j'exerce au cœur de la détresse, au cœur du mal, au cœur de la vie. J'ai appris qu'il ne faut refuser personne, qu'il ne faut rejeter personne et qu'il faut apporter une parole à ceux qui sont les plus mécréants, les moins croyants, les athées, pour leur apporter une parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Partons ensemble, pas à Tarsis, à Ninive. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur, après cette méditation sur Jonas le fuyard, quelle leçon il nous donne, tu nous donnes. Nous voulons être rapides à obéir, nous voulons être toujours attentifs à ce que tu nous dis. Nous ne voulons pas condamner personne, exclure personne. Nous voulons être humains, chrétiens, envoyé au milieu d'une humanité souffrante, cassée. Nous voulons être représentants de Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et nous voulons être donnés au monde, envoyés vers le monde. Bénis ton Église, sors-nous de nos limites, de nos façons rétrécies de penser, de prier, d'agir. Sors-nous de nos mauvais jugements, de notre étroitesse d'esprit. Sors-nous, Seigneur, je t'en supplie, pour faire de nous des disciples comme les apôtres, comme les prophètes. Au nom de Jésus, amen.